Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Alors dans cette nouvelle série d'épisodes, une fois par mois, vous connaissez la chanson, je vous parle d'un livre important pour moi et pour mon parcours de photographe et d'entrepreneur. C'est pas forcément un livre sur la photo, mais c'est un livre qui va vous aider au quotidien dans votre pratique de photographe, votre pratique d'entrepreneur. D'ailleurs, à l'instar du premier livre de cette série, le premier épisode qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines, il va encore être question de développement personnel, car c'est l'une des thématiques qui drive le plus un photographe indépendant, surtout lorsque des moments de doute arrivent et où il y a différents obstacles que il ou elle est amené à rencontrer. Alors l'auteur de ce livre, c'est un Américain qui s'appelle Ryan Holiday, qui est un spécialiste du stoïcisme et qui a même redonné en quelque sorte ses lettres de noblesse et qui a redonné vie à ce courant millénaire à travers de nombreux best-sellers, notamment L'obstacle et le chemin, et notamment le livre du jour qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Ego is the enemy. Alors, c'est intéressant parce que l'ego, c'est quelque chose qui est central, et avant de commencer à disserter sur ça et à réfléchir à partir de ça, il faut bien se mettre d'accord sur les termes et une définition de ce qu'est l'ego. L'ego, donc je cite l'auteur, qui cite lui-même Freud. Freud disait que l'ego, c'est le cavalier sur le dos d'un cheval, avec nos motivations inconscientes représentant l'animal, tandis que l'ego tente de le diriger. Je trouve ça pas mal comme définition, c'est assez poétique et assez vrai au final. L'auteur, lui, ce qu'il donne comme définition, c'est que l'ego, c'est une croyance malsaine en notre propre importance, et qui prend la forme d'arrogance ou d'ambition égocentrique. C'est un sentiment de supériorité, de certitude, qui dépasse les limites de la confiance et du talent. C'est en quelque sorte un enfant capricieux qui est en chacun de nous. C'est le besoin d'être plus que, meilleur que, reconnu pour. Donc, en soi, c'est un ennemi, parce qu'il nous tire vers le bas, il nous empêche de collaborer avec les autres, et donc de nous remettre en question, et donc d'apprendre, et donc, quelque part, d'avoir du soutien, d'avoir, au final, des opportunités. En somme, l'ego, il altère la réalité, et nous fait vivre dans un monde imaginaire, tout comme la jalousie, la haine, ou même la naïveté. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'est pas dans le bouquin, mais que je rajoute, c'est très difficile de parler de réalité au point de vue réalité universelle, du moins, parce que tout ce qu'on voit, c'est pas vraiment la réalité, c'est toujours une interprétation que notre cerveau fait de la réalité à travers le prisme de nos biais cognitifs, de notre vision du monde, de notre expérience, de notre entourage, etc. Mais bon, ça c'est tellement profond qu'on pourrait en parler dans un autre épisode. Pour venir à l'ego, les réseaux sociaux ont exacerbé l'ego. L'ego qui a toujours été présent chez l'homme. Aujourd'hui, avec Instagram, Facebook, etc., vous le voyez, on se compare davantage. On valorise les succès de plus en plus, que ce soit à travers des posts, des messages, pour certains, des discours TED. Vous savez, les fameux discours TEDx, hein, où il y a une personne qui a accompli plein de choses, qui monte sur scène et qui, en 20 minutes, va dire à quel point elle va changer votre vision du monde parce qu'elle a compris un truc dans sa vie. Et tout simplement le fait de pouvoir monter aujourd'hui une boîte en deux clics, être capable de se proclamer, s'auto-proclamer entrepreneur en créant un statut en ligne, et c'est le cas pour les photographes, forcément, ça crée un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que l'ego, ça peut être un très bon moteur, ça peut être une très bonne chose si on l'utilise correctement, et en même temps, ça peut détruire quelqu'un. Et c'est exactement ce qu'apprend ce bouquin. En tout cas, il apprend à se servir de l'ego comme un moteur et pas comme un outil de destruction, à travers trois parties, trois phases importantes dans lesquelles l'ego a sa place. Ces trois phases, c'est l'aspiration, la réussite et l'échec. Alors l'aspiration, c'est la capacité, voilà, le résumé un petit peu en quelque sorte de ce chapitre-là, c'est la capacité à être humble dans l'aspiration, dans ce qu'on aspire à être, à devenir, à rester dans l'esprit des gens. Le deuxième volet sur la réussite, c'est la capacité à être bienveillant dans la réussite, être capable de mettre son ego de côté pour gérer la réussite, et on en parlera un peu plus tard dans cet épisode. Et enfin, l'échec, et la capacité donc à être résilient dans l'échec. Et le message du bouquin, à travers ces trois axes, il est au final très positif. L'ego, comme l'explique l'auteur, c'est pas un monstre que vous êtes obligé de rassasier sans arrêt. Non, c'est certes, il y a un petit peu côté monstre, mais il peut se gérer, il peut être guidé, Et l'auteur illustre chacune des affirmations qu'il donne tout au long du bouquin par des exemples de parcours de personnalités que vous connaissez toutes et tous, à des gens comme Benjamin Franklin, Eleanor Roosevelt, Steve Jobs, Alexandre le Grand, etc. Et ce livre, il est important, je l'ai choisi pour le conseiller à un photographe, parce que notre métier, plus que beaucoup d'autres métiers, j'ai l'impression, comme beaucoup de métiers créatifs et dans l'art, ben, il est gangréné par l'écho, par l'ego. L'ego, il est exacerbé dans ce genre de métier par le fait d'être seul la plupart du temps, seul à gérer des problèmes et seul à se faire des films de ce qu'est la réalité. Surtout quand on se compare sans arrêt, il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour se comparer. Aller voir une exposition en photo, regarder des images sur Internet, vous verrez que vous allez toujours vous dire, ah mais moi je fais mieux, etc., etc. La solitude, le manque de discipline, le manque d'échange avec les autres qui résulte de la solitude, le manque de confrontation au réel qui résulte du fait qu'on a du mal à se bouger le cul concrètement et d'aller tester de nouvelles choses, bah ça fait pousser l'ego d'une mauvaise manière. Le premier constat, c'est que le manque de remise en question et l'incapacité de. Enfin, le premier constat, c'est le manque de remise en question et l'incapacité de se former. Là où un humain ne doit être qu'un éternel étudiant s'il veut progresser dans la vie. Je cite l'auteur, hein, qui cite lui-même Épictète, dont il est un grand fan, parce qu'Épictète, c'est un petit peu le penseur par excellence du stoïcisme, après Marc Aurèle, on va dire. D'ailleurs, les deux avaient une vie assez opposée, parce que l'un était. Marc Aurèle était empereur romain. Un mec qui vivait plutôt bien son style de vie, quoi. Même s'il était très, très stoïque et très. Enfin, pas à la recherche du confort, etc. C'était pas un empereur romain qui a brillé dans l'histoire par ses fastes et ses excès. Mais bon, quand t'es empereur romain, t'es un peu en haut de la chaîne alimentaire. Et Épictète, lui, c'était un peu l'inverse, c'était un esclave. Donc, bon, c'est un peu. C'est pas vraiment le même délire, et pourtant, c'est exactement la même philosophie, ce qui est assez étonnant. Et Épictète disait, c'est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça quelque part. Peu importe votre âge, peu importe nos âges, peu importe nos expériences de vie, peu importe nos parcours, on apprend toujours, tout le temps, et de tout le monde. Et le paradoxe là-dedans, c'est que personne n'aime penser que quelqu'un d'autre est meilleur que soi. Personne. Ou qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. C'est pas quelque chose qu'on apprécie savoir. Même si des fois on le dit, et moi ça m'est arrivé de voir des gens qui sont venus vers moi. Soit dans le DR, dans le collectif, dans mon agence ou ailleurs, pour me dire, voilà, j'ai beaucoup à apprendre, je suis un éternel étudiant, même si je suis plus vieux que toi, etc. Et une fois que ben, j'en ai commencé à apprendre, il y a certains, malheureusement, ça reste toujours un épiphénomène, mais il y a certains qui, au final, leurs propos ont dépassé ce qu'ils pensaient, puisque ben, ils apprécient pas trop. Quand quelqu'un de plus jeune leur explique que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire, c'est peut-être quelque chose qui t'amène dans le mur, mais je te dis ça avec toute la bienveillance du monde, mais ça fait mal à l'ego, et certaines personnes ont arrêté justement de se former chez moi à cause de ça. La solution à ça, pour être capable d'être un vrai étudiant toute sa vie, d'apprendre encore continuellement toute sa vie, c'est de se forcer à se former. Et surtout se forcer à se former auprès d'un maximum de personnes que l'on trouve légitimes pour ça. Faut pas se former auprès de n'importe qui, sous prétexte que exactement ce que je viens de dire. Il faut aller choisir les meilleurs, les experts, qui sont des gens qui sont bons, qui ont déjà acquis un résultat que vous visez, et après faire abstraction pour le coup de son âge, de son parcours, etc. Mais voilà, si moi demain je veux me former au piano, je vais pas aller voir un mec qui est bardé de diplômes et qui hurle sur tous les toits qu'il est bon là-dedans ou quoi. Je vais aller voir quelqu'un qui a eu des vrais résultats et surtout quelqu'un qui va m'être recommandé, qui est pédagogue, etc. Donc formez-vous auprès des gens qui sont légitimes. Les diplômes sont pas forcément une forme de légitimité. On le voit dans plein de domaines. Moi, pour être journaliste spécialisé dans tout ce qui est défense, sécurité et géopolitique, je me rends compte que en géopolitique, c'est assez marrant de voir que plus les gens ont des diplômes, plus ils sont décorrélés du réel, ils comprennent rien à ce qui se passe dans certains endroits du monde parce qu'ils y mettront jamais les pieds. Ils lisent qu'à travers des lectures de mecs qui ont eu des lectures, de mecs qui ont eu des lectures. Et c'est un cercle vicieux. Et donc voilà, donc le côté diplôme et justification sociale, c'est pas forcément le meilleur. Par contre, l'expérience de gens qui sont allés sur le terrain, qui sont allés faire des reportages dans des endroits où on comprend la situation d'un pays. Et souvent, quand le pays est en guerre, ben voilà, vous apprendrez plus sur la situation d'un pays en écoutant Patrick Chauvel qui a fait des reportages dans des tranchées que je sais pas qui, docteur en géopolitique, qui est jamais sorti du 15e à Paris, du 16e à Paris, j'exagère à peine, mais bon, vous voyez l'idée. J'aime bien les Parisiens. Hein. J'aime bien le 16e aussi. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se former. Ça n'a jamais été aussi simple et si peu coûteux au final. Je veux dire, Internet, c'est gratuit. Une fois que vous avez payé votre connexion Internet, les livres, ça coûte pas si cher pour 10 ou 20 balles. Et pour rien du tout, parce que vous avez aussi ce qu'on appelle des bibliothèques et des médiathèques qui accessoirement vous prêtent des bouquins gratos. Ce que les gens oublient pas mal en se disant, ouais, mais t'es sympa, les bouquins, ça coûte cher. Je te dis pas de les acheter, le livre. Tu vas dans ta bibliothèque de quartier, tu vas le trouver, le bouquin de Ryan Holiday. Donc, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Au pire, ils le commanderont et puis tu l'auras dans une semaine gratuitement. Donc, il y a les livres, il y a YouTube qui est gratuit et il y a énormément de contenu sur YouTube. Et puis, il y a les formations de professionnels et dont beaucoup, là, petit espace publicitaire, beaucoup sont prises en charge par les OPCO parce qu'elles sont certifiées Calliope. Donc, voilà. Par exemple, se former chez moi, si vous êtes auteur et que vous cotisez à l'AFDAS ou vous êtes auto-entrepreneur et que vous cotisez au FAFSEA, ben, vous pouvez les avoir gratuitement. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant depuis que j'ai lancé ce nouveau format avec des formations remboursables à 100%, parce qu'en plus je me suis aligné sur des tarifs pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde, bah, je ne vends pas forcément plus, ce qui est assez marrant. Enfin marrant, c'est pas marrant, mais c'est étonnant, parce qu'il y a des gens qui me demandaient à pouvoir passer par ces financements, mais qui au final ne passent pas à l'action. Ce qui me conforte dans mon idée que c'est pas parce que ça va être gratuit qu'on passe plus facilement à l'action. Et de mémoire, au final, avec mon expérience, ma petite expérience de ces quelques années de formateur, je me rends compte que c'est quand on a quelque chose à perdre et quelque chose qu'on a investi, qu'on s'est un peu saigné et qu'on s'est donné les moyens de ses ambitions, qu'on obtient du retour sur investissement. En général, quand c'est gratuit, les gens ils donnent pas beaucoup d'importance et malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Donc, petite parenthèse pour ceux qui font de la formation, vous me direz si vous avez constaté ça aussi. Et pour en avoir parlé avec pas mal de collègues, je trouve que c'est pas si con comme raisonnement. Fin de la page de pub. Le game changer pour moi et pour beaucoup de personnes qui ont eu du succès, en tout cas qui ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés, c'est toujours d'être capable de transformer l'ego, ce monstre qui semble incontrôlable, en moteur puissant. Et d'être capable de hacker son cerveau. C'est un peu comme utiliser à bon escient le biais de Dunning-Kruger. Vous savez, ce biais dont on a déjà parlé dans un précédent épisode du podcast, je sais plus lequel, mais si vous suivez religieusement, vous devez vous en rappeler. Le biais de Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui consiste à dire en gros que plus on a tendance à savoir quelque chose, à être expert dans un domaine, ben curieusement, moins on a de certitude. Surtout ça, plus on pense qu'on sait et moins on pense qu'on sait, en quelque sorte. Et vice-versa, il y a des gens qui connaissent rien à une thématique, à un domaine, et enfin, au début, ils commencent à se renseigner, ils ont l'impression de tout savoir. Ça se voit beaucoup dans la crypto, quelqu'un qui débarque, qui ne connaît pas, dans l'IA, c'est pareil, dans toutes les nouvelles technologies, il suffit de regarder trois vidéos YouTube et on a l'impression d'être un expert sur la thématique. C'est très vrai dans la photo aussi, je ne citerai pas de nom, mais. C'est toujours amusant de voir certains collègues, et je dis collègues avec des guillemets parce que il y a des gens que j'ai vu popper sur popper en mode hop, ça pop, comme un jeu vidéo. Un mec qui débarque sur YouTube en mode bonjour, je suis coach en photo. Et en fait, quand on regarde, le mec a ouvert son compte Instagram la semaine dernière, il a créé son statut de photographe le mois dernier, et là, il est coach pour photographe professionnel. C'est assez marrant. Et quelque part, je suis pas du genre à faire le haters parce que c'est quelque chose que j'aime pas comme fait, donc je le fais pas. Je respecte ces gens. Si je peux aider, j'aide. Ce qui est un peu chiant, c'est quand la personne vient se former chez vous et après pompe du contenu. Ça m'est arrivé aussi. Mais heureusement, ça aussi, c'est anecdotique. Comment dire, c'est, quand je vois ça, je me dis que c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on est capable de transformer son. Ce biais cognitif, ce défaut en quelque sorte, en quelque chose de puissant parce que ça va permettre de se lancer. Typiquement, notre ami Jean-Claude, appelons-le Jean-Claude, c'est pas, il n'y a pas de vrai prénom derrière. Notre ami Jean-Claude qui s'est découvert une passion pour la photo et qui pense qu'il va devenir photographe, enfin coach de photographe professionnel, même si aujourd'hui il a vendu zéro photo ou alors il a vendu des photos via du stock ou via une agence comme Miro. Il pense que c'est gagné, du coup il se lance. Et en fait, personne ne peut lui en vouloir à notre ami Jean-Claude parce que sinon il ne serait pas lancé. Donc des fois, il y a besoin d'utiliser ça. Et moi, je le fais. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à une nouvelle thématique, bah, l'IA par exemple, j'ai commencé comme ça, je me suis dit, ok, je vais consommer un maximum de contenu, je vais regarder plein de vidéos, je vais lire des bouquins, je vais discuter avec des gens qui connaissent ça. Et je vais même commencer à réfléchir à des formations que je pourrais faire pour aider ceux qui sont au niveau zéro pour le faire. Et du coup, j'utilise ce biais cognitif. Vous voyez l'idée? Donc, pour être capable de hacker notre cerveau et ce genre de trucs, ça commence par avoir conscience de ces biais qui nous contrôlent par défaut. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Puis, la deuxième étape, c'est de réfléchir à comment on les actionne dans un meilleur but, en ayant la rage de vouloir réussir quelque chose. Par exemple, en fournissant plus d'efforts que les autres, en faisant ce que les autres ne font pas. Typiquement, se lancer sur Internet et commencer à faire des vidéos. Ça, la plupart des gens ne le font pas. On a l'impression qu'il y a du monde, mais au final, on est extrêmement nombreux, hein, en tant que photographe. On est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, à faire ça de façon plus ou moins pro, occasionnelle, etc. Et il y a très peu de gens qui osent faire des choses, qui osent monter des podcasts et qui durent jusqu'à 200 épisodes. Il y a très peu, en fait. On est très peu. C'est être capable de faire ce que les autres ne font pas, en essayant de se convaincre soi-même que c'est à notre portée. Et pour réussir à faire ça, il faut avoir de l'ego. L'ego, c'est le moteur. D'ailleurs, si vous voulez vivre durablement de la photo, il faut avoir de l'ego. C'est une sorte de. Il faut avoir cette forme d'espoir et de confiance en soi extrême, qui consiste à être convaincu que des gens vont vous donner de l'argent pour ce que vous créez avec votre appareil photo que vous avez acheté à la Fnac, ou chez Objectif Assis, ou pour pas citer, ou ailleurs. Alors que les gens, ils vous doivent rien. Il faut être quand même. Vous réalisez que sur le papier, c'est assez casse-gueule. Il faut être un peu cinglé. Et il faut être quand même, quelque part, un peu aveuglé par son ego pour pas le voir. Parce que si vous dites. Si vous ne dites pas justement que vous méritez ces choses-là, parce que vous avez bossé dur pour ça, ben ça marchera pas. Il faut être capable de se dire, je mérite ça, je me suis formé, j'ai travaillé dur, du coup je le mérite. C'est l'ego qui dit ça en fait. Mais la réalité, il faut jamais l'oublier, c'est que personne ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Vous êtes la seule personne qui vous doit quelque chose. Et vous devrez tout le temps convaincre les gens de votre valeur. Personne ne vous doit rien. C'est pas parce que vous êtes photographe de mariage, vous avez décrété que vous serez photographe de mariage, que des mariés vont vous confier leur mariage. C'est pas parce que vous avez décrété que vous êtes photographe de presse, que vous avez rejoint une structure ou que vous diffusez vos photos, que les rédactions doivent répondre à vos mails et acheter vos photos. Ils vous doivent rien, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce que quand on répond pas à nos mails, quand on nous répond oui et puis après c'est non, mais ça fait mal à l'ego. Mais en fait, c'est la réalité. C'est la réalité. Et quand on creuse, quand on regarde un petit peu loin dans l'histoire de l'art, et je sors du cadre de la photo pour parler là pour le coup de peinture, on se rend compte que Léonard de Vinci, Michel-Ange, tous ces mecs-là qui sont connus aujourd'hui pour être des maîtres dans leur domaine et qui ont inspiré des générations et qui ont écrit l'histoire de l'art, faut pas oublier que en leur temps, au tout début, c'était juste des crèves-la-dalle. C'est des mecs qui vivaient dans une société de caste avec les nobles, le clergé, le tiers-état. Et les mecs, ils oscillaient entre le tiers-état et vite fait la noblesse en étant entretenu, il n'y a pas d'autre mot d'ailleurs, c'était le terme en vigueur, entretenu par un maître, par quelqu'un qui a du fric, par un noble, par un prince, par un protecteur, un baron ou un marquis, etc. S'il n'y avait pas eu la famille des Médicis, ce qui serait l'équivalent des Bernard Arnault aujourd'hui, hein, la famille riche de son époque, s'ils n'étaient pas là pour filer un peu de thunes et puis filer un lit pour éviter que Léonard il dorme dehors, bah, Léonard il aurait jamais fait ce qu'il a fait. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, c'est juste l'histoire. on oublie rétrospectivement, quand on voit ce qu'ils ont fait, que tous les artistes passent par là, quelque part. Alors c'est moins violent, mais ça reste quand même le cas. Je veux dire, là, par exemple, un événement assez pas similaire, mais vous avez tous suivi, je pense, l'histoire de la grande commande photographique de la BNF, où 200 photographes ont été financés à hauteur de, je sais plus, 11 ou 20 000 balles, 10 ou 20 000 balles chacun. En gros, l'État a déclenché plusieurs millions d'euros. L'État, notre argent, les impôts, accessoirement, pour ceux qui en payent. Moi, je cotise. Nos impôts ont été utilisés pour déclencher une commande publique pour que des artistes puissent. Alors, c'est plus des artistes que des photographes d'ailleurs, parce qu'au final, dans les photographes qui ont été sélectionnés, il y en a très peu qui sont photographes de presse. Ça, c'est autre chose, mais ça fera rager certaines personnes. C'est assez marrant d'ailleurs, mais bon, ça reste. Ça reste anecdotique. Mais en gros, l'État a donné de l'argent pour que des gens puissent faire ce qu'ils aiment bien faire, hein, c'est-à-dire faire des photos. Alors, on pourra dire raconter la société, apporter une pierre à l'édifice, etc. Bon, ok, ouais. Faire des photos, faire un sujet et l'exposer à la BNF. Ok. Financé aussi par l'argent public. Concrètement, ça s'appelle être entretenu aussi. Je dis pas bien, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. J'ai des potes qui l'ont fait, il n'y a aucun souci, mais il faut pas l'oublier. Et en fait, la plupart, de la même façon que la plupart des photographes, des artistes aujourd'hui vivent pour la majorité, par des biais détournés, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle des boulots alimentaires. Hein. Comme moi, j'ai pu le faire à mes débuts, je bossais chez Leclerc, dans la restauration, chez Decathlon, j'étais vendeur, commis de cuisine, je tirais des palettes, enfin, comme plein de gens pour payer leurs études. Ben, de la même façon. Rappelons-nous que des mecs comme Léonard de Vinci, quand il peint un tableau qui est le tableau de la Mona Lisa, par exemple, bah la Mona Lisa, c'est une femme, c'est une commande, hein, c'est un boulot alimentaire qu'il est en train de faire à ce moment-là. C'est un mec qui le paye pour faire une photo de sa femme qui vient de perdre son enfant très jeune et qui est en tenue de deuil, c'est pour ça qu'elle a ce voile noir sur la peinture. Et quand elle fait ce sourire un peu énigmatique, il arrive à saisir le truc, il peint, mais c'est en fait un travail de commande. Si demain vous débarquez dans un studio photo pour faire une photo d'identité, ben, à l'époque, c'était pas le photomaton, c'était Léonard. Et quand il fait, quand on creuse, moi j'ai lu l'histoire de Léonard de Vinci, c'est passionnant. Surtout la partie où il est en conflit, il est en guéguerre avec Michel-Ange, c'est assez marrant, qui est beaucoup plus jeune que lui et qui le traite un peu de boomer, c'est assez marrant. Mona Lisa, il s'en fout un peu, quoi. Il a même pas envie de terminer ce tableau. S'il a plein de problèmes, il est à la rue, il a plus de thunes et c'est compliqué. Et après, ça deviendra le tableau le plus connu au monde, rétrospectivement. De la même façon que vous avez des gens comme Vincent Van Gogh, qui a vendu une seule toile dans sa vie et qui est mort dans la misère la plus extrême, alors qu'aujourd'hui, c'est les tableaux les plus chers au monde. Donc quelque part, c'est un passage presque obligatoire de galérer. C'est con à dire, mais ça fait partie du truc. Dans l'armée, il y a une expression, pas que dans l'armée d'ailleurs, mais on l'entend beaucoup dans l'armée, qui est manger son pain noir. Manger son pain noir, c'est-à-dire subir des postes et des missions qui sont pas forcément sexy, pas forcément intéressantes, pour ensuite mériter quelque chose de mieux, mériter une meilleure affectation, etc. Alors bien sûr, il est possible de prendre des raccourcis, d'aller plus vite. Mais c'est risqué, parce que ça amène des problèmes qu'on n'est pas forcément capable de gérer, notamment à cause, encore une fois, de son ego. Et là, je vais prendre un exemple qui n'est pas dans le bouquin, mais qui ressemble étrangement à des exemples historiques qui sont cités dans le bouquin. Et bon, c'est la plus-value de ce podcast, c'est pas que je vous lise un bouquin, c'est pas ce que je fais depuis le début, donc j'espère que ça vous plaît, je rajoute des choses dans mon expérience personnelle ou des choses que j'ai vues ici et là. Je prends un exemple que j'ai vécu. Il y a quelques années, j'ai donné un cours de photojournalisme dans une fac. Je bossais pour une fac, la fac de Perpignan, pas la Cité, pour un diplôme universitaire. Et parmi les élèves, il y avait un jeune photographe, plus jeune que les autres, qui a eu une trajectoire assez intéressante et que je souhaite à personne. Même pas à quelqu'un que j'aime pas. Mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas de vivre ça. Quand ce jeune, il a eu sa licence, alors qu'il était très jeune, je crois même de mémoire qu'il a fait une dérogation, je sais pas quoi, pour qu'il puisse avoir sa licence, parce qu'il n'avait pas tout à fait 18 ans. Il a obtenu une très belle publication dans un magazine assez prestigieux, qui paye bien, avec un sujet bien traité, mais c'était pas le sujet de l'année entre nous. Mais à ce moment-là, ça tombait bien, parce que le journal voulait parler de ça, et hop, les planètes s'alignent, comme ça se passe beaucoup dans ce métier. Hein. Ne pas avoir de chance, c'est une erreur professionnelle dans la photo, dans le journalisme encore plus. Et donc, ce jeune était très heureux, parce qu'à même pas 18 ans, il avait sa première publication sur 6 pages dans un magazine, et il empochait, je crois que c'était 1000 euros ou un peu plus. Quelques mois plus tard, il candidate avec ce même reportage à un grand prix photo pour les étudiants, un concours qui est organisé en plus par Paris Match, doté de plusieurs milliers d'euros, avec remise de prix dans la salle d'honneur de la mairie de Paris, et tout tintouin. Donc, vous imaginez le truc. Et là, manque de bol, le mec, il gagne. Et je dis manque de bol parce qu'à ce moment-là, ce jeune photographe, il est devenu insupportable. Insupportable. Convaincu qu'il était génial, il a pris pour acquis ce qui lui arrivait, et il a considéré qu'à chaque fois qu'il allait faire une photo ou un reportage, ben, elle mériterait, pourquoi pas, une publication, des milliers d'euros, etc. Le problème, c'est que c'est là où on se prend un mur qui s'appelle la réalité, c'est que quand on n'a pas forcément un niveau adéquat ou une maturité adéquate, en tout cas par rapport aux ambitions qu'on a, ben, après quelques années d'échecs, stage en stage, quelques petits boulots, quelques reportages, il a décidé de jeter l'éponge. Encore une fois, guidé par son ego. Et justement, c'est là où l'erreur arrive au niveau de l'ego, c'est que non seulement il abandonne, mais il a pas simplement abandonné en acceptant ses erreurs, ses mauvais choix, se remettre en question, que ce soit. Non, il a posté un long message sur les réseaux sociaux, assez larmoyant, en accusant la profession et le système de la carte de presse, tout ça, des rédactions, des iconographes, tout ça, de son échec. Et quand on lit son message, ben on se dit, ben, il est impossible de vivre du journalisme, que c'est trop dur, que personne n'y arrivera en fait. Et qu'en plus, il représente une génération sacrifiée, etc., etc. Et alors, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que de nombreux médias ont donné de l'écho à son histoire, en s'en servant pour illustrer le fait que, ben, à ce moment-là, en plus, il y a des études qui montraient, enfin, il y a un sociologue qui avait sorti un bouquin qui disait qu'il y a X% de jeunes de moins de 30 ans dans la profession qui décident d'abandonner parce qu'ils ont des burn-out, etc. Parce que c'est trop dur pour eux, parce que ça correspond pas. Alors, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que parfois, même souvent, même quasiment tout le temps, on va dire, c'est le métier de journaliste est incompatible avec une vie de famille telle qu'elle est perçue par la plupart des gens. Et j'insiste sur cette deuxième partie de phrase, telle qu'elle est perçue par la plupart des gens. C'est-à-dire, métro, boulot, dodo, à 17h, tu vas récupérer les gosses à la crèche ou à l'école, et puis ensuite, tu fais papa, maman, et après, c'est parti. Non, en général, ça ne se passe pas exactement comme ça dans ce métier. Il va falloir être un peu plus flexible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes qui arrivent à bien gérer. Il y a beaucoup de photographes, des photographes hommes de guerre, qui réussissent à avoir une famille et ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça reste une exception et que c'est vrai que c'est compliqué. Mais à ce jeune, et c'est ça que alors je ne lui ai pas dit parce qu'on a arrêté de se parler, il a été même assez désagréable. J'ai envie de dire que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose que personne ne peut y arriver. Et ça, malheureusement, c'est l'ego qui nous amène à le croire. La morale de cette petite histoire, c'est qu'il faut faire attention à son ego, il faut surtout apprendre à gérer ses succès autant que ses échecs. Et ça, Ryan Holiday, dans son bouquin, en parle beaucoup, cite des exemples historiques de généraux, de présidents, d'hommes politiques assez importants qui n'ont pas réussi à gérer leur succès, qui se sont retrouvés dans la merde parce qu'ils ont laissé leur ego prendre le pas. Et c'est toute la morale donc, de cet excellent livre que je vous conseille et qui trône ostensiblement dans ma bibliothèque, dans mon salon, de manière à ce que je puisse tout le temps l'apercevoir. En fait, quand je me lève pour raconter ma vie, quand je vais dans mon salon le matin, il y a une bibliothèque face à moi et je vois certains bouquins que j'ai décidé de mettre en avant, et il y a notamment ce bouquin dont le titre est « L'ego est l'ennemi », parce que c'est un truc qu'il faut jamais oublier en fait. Et personnellement, à chaque fois que je m'énerve, à chaque fois que je broie du noir, à chaque fois que quelqu'un me met un coup dans le dos, ce genre de truc, bah, j'essaie de me rappeler que mon seul ennemi, le seul responsable de mon mal-être, c'est pas les autres en fait, c'est moi-même. Alors ça fait un peu schizophrène ou bipolaire de dire ça, mais vous êtes toujours plusieurs dans votre tête. Il y a toujours une partie de vous qui sera en conflit avec une autre, mais au final, vous êtes le seul maître à bord. Encore faut-il savoir prendre ses responsabilités, hein. On en parlera dans un prochain épisode sur un autre bouquin qui m'a beaucoup inspiré sur ça. Et autant faut-il être capable d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Donc voilà, pour ce petit épisode qui dure plus longtemps que ce que j'imaginais au final. J'ai pas énormément parlé du contenu du bouquin, je vous laisse découvrir ça, j'en ai parlé dans les grandes lignes, et surtout je viens de vous expliquer en quoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça a changé pour moi, est-ce que ça peut changer pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu, allez lire le bouquin de Ryan O'Day, je vous mets un lien dans la description, jetez un œil à sa bibliographie aussi parce qu'il y a pas mal de pépites, dont certaines que je présenterai dans de prochains épisodes. Abonnez-vous au podcast, mettez une note sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur iTunes, laissez-moi un commentaire sur YouTube si vous m'écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça montrera que vous êtes à fond. Merci d'être si nombreux à me suivre, j'espère que ça vous plaît et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, c'est tous les jeudis matin que je sors un épisode depuis quelques semaines, quelques mois. Je vous rendez-vous jeudi prochain pour un prochain épisode et pour le coup une passionnante interview de photographe. Merci et à très vite.